Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Éric Dupri.
Bienvenue sur Radio Présence, merci d'être fidèle à l'écoute de Vivante Église. Nouvel épisode aujourd'hui de notre série « Deux traditions et un sens » où nous mettons en regard les traditions juives et chrétiennes à partir des textes bibliques pour en montrer les points de convergence, sans nier toutefois les différences qu'il peut y avoir entre elles. Nous allons consacrer ce numéro à l'expression « Terre Sainte » qui apparaît pour la première fois dans le livre de l'Exode. Pour cette émission, je retrouve les deux intervenants habituels de la série « Deux traditions et un sens », ceux qui en sont à l'origine. Je salue Ephraim Tettelbaum, membre de la communauté juive de Toulouse, ex-délégué régional du Fonds social juif unifié, et je salue le père Édouard Divry, frère dominicain, docteur en théologie et professeur d'hébreu. Le père Édouard a également été délégué diocésain pour les relations avec le judaïsme à Toulouse et à Montpellier. Aujourd'hui, vous avez donc choisi de dialoguer ensemble sur le thème de la Terre Sainte, cette expression que l'on trouve au chapitre 3 du livre de l'Exode, plus exactement dans le verset 5 du chapitre 3. Et je vais demander au frère Édouard de nous lire ce cinquième verset afin de bien préciser le contexte dans lequel cette expression apparaît.
Voilà, bonjour à tous. Je voudrais d'abord remarquer que l'expression n'est pas seulement dans l'Exode, mais 5 fois dans la Bible. La Bible grecque et la Bible hébraïque. Dans la Bible hébraïque, deux références, donc Exode 3, 5, c'est le moment du buisson ardent où Moïse voit tout à coup ce buisson qui jaillit dans le désert. On n'est donc pas sur Eretz Israël, tel que les rois l'habiteront plus tard, hein, mais dans un désert où, rappelons-nous, Moïse a fui Pharaon qui en voulait à sa vie. Et Moïse reçoit donc cette annonce de ce buisson qui lui dit « N'approche pas d'ici, c'est le Seigneur qui parle, retire tes sandales de tes pieds car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Et donc cette expression sera rapportée par Étienne au moment de son martyre en Actes chapitre 7 verset 33. Alors le Seigneur lui dit « Ôte tes sandales de tes pieds, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. » Donc, vous voyez, il y a vraiment un lien constant entre la première alliance et ce que nous appelons la nouvelle alliance. Mais ce texte n'est pas isolé, puisqu'on le trouve chez le prophète Zacharie, qui est l'un des derniers prophètes pour nous, petit prophète, mais qui est très proche dans sa finale de l'annonce de ce que Élie va venir. Hein. Et pour nous, nous savons qu'avec Jésus, Jean-Baptiste, eh bien, il y a eu réalisation de ces prophéties. En Zacharie 2,15, il est écrit « Des nations nombreuses s'attacheront à Adonai, c'est-à-dire le Seigneur. En ce jour-là, elles seront pour lui un peuple. Elles habiteront au milieu de toi et tu sauras que le Seigneur Sabaoth m'a envoyé vers toi. » Et voilà le passage important, Zacharie 2,16. Mais Adonai possédera Juda comme sa part sur la terre sainte et choisira encore Jérusalem. Et il conclut, silence toute chair devant Adonai, car il se réveille en sa sainte demeure. Donc il y a vraiment un lien très fort entre la présence de Dieu, qui est vraiment la terre sainte dès qu'il est là, et finalement ce lieu qui appartient au Seigneur, hein, terre de Juda et Jérusalem. Mais ces textes ne sont pas les seuls. Dans la Bible grecque, il y a encore d'autres passages. Deuxième livre des Maccabées, chapitre 1, verset 7, et Sagesse 12, 2. Ces livres ne se retrouvent pas, bien sûr, dans la Bible hébraïque. Ce sont des livres grecs de l'Ancien Testament qui sont reconnus par tous les chrétiens. Et donc, c'est important de savoir, les chrétiens orthodoxes et catholiques les reconnaissent, les protestants ne les reconnaissent pas. De Maccabées 1, 7, sous le règne de Démétrius, l'an 169, nous les Juifs, nous vous avons écrit ceci. Au cours de la détresse et de la crise qui fondirent sur nous en ces années, depuis que Jason et ses partisans avaient trahi la Terre Sainte et le royaume, ils incendièrent la grande porte du temple et répandirent le sang innocent. Alors nous avons prié le Seigneur et nous avons été exaucés. Nous avons offert un sacrifice et de la fleur de farine. Nous avons allumé les lampes et exposé les pains. C'est une allusion à Hanouka, la grande fête de Hanouka. Et voyez déjà, il y a ce lien entre Terre Sainte et Royaume et le Temple de Jérusalem, où il y a la présence. Sagesse 12, 2, aussi une mention de la Terre Sainte. C'est le livre le plus proche du christianisme, puisqu'il a été écrit, selon les exégètes, seulement 50 ans avant Jésus-Christ. C'est très proche. Nous qui avons un certain âge, nous disons, mais c'est hier. Et donc, voilà ce que dit Sagesse 12, 3. Aussi, est-ce peu à peu que tu reprends ceux qui tombèrent, tu les avertis, leur rappelant en quoi ils pêchent, pour que débarrassés du mal, ils croient en toi, Seigneur. Les anciens habitants de ta terre sainte, tu les avais pris en haine pour leurs détestables pratiques, actes de sorcellerie, rites, etc. Eh bien, même cela, parce que c'était des hommes, tu les as ménagés et tu as envoyé des frelons comme avant-coureurs de ton armée pour les exterminer petit à petit. Donc, il te fut impossible de livrer des impies aux mains de justes en une bataille rangée ou de les anéantir d'un seul coup au moyen de bêtes cruelles ou d'une parole inexorable, mais en exerçant tes jugements peu à peu, tu laissais place au repentir. C'est toute la miséricorde de Dieu qui s'exerce sur les terres et qui fait que même quand la terre sainte, je dirais, est marquée par des péchés, Dieu n'intervient pas d'une manière brusque. Voilà ce que veut dire le livre de la sagesse, c'est-à-dire que Dieu est toujours pédagogue et il reprend petit à petit même les plus grands pécheurs pour les amener à prendre conscience que la terre est sainte, voyez. Et ça, c'est important. Parce que la terre sainte, finalement, le premier analogué, c'est la présence de Dieu, Dieu créateur, qui est le possesseur de toute la terre sainte, hein, comme le dit le livre de la Genèse. Et je donne la parole à Ephraim.
Oui, alors maintenant...
Bonjour.
Côté juif, effectivement, l'expression « terre sainte », telle qu'on peut la découvrir donc dans le livre de l'Exode là, pour la première fois, mais aussi ensuite
dans les autres
toutes
textes.
Les occurrences que vous avez relevées, frère Édouard, qu'est-ce qu'elle recouvre pour vous, Ephraim?
Alors, vous verrez que c'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que les pères d'Ivry parlaient d'Exode, les buissons ardents. Il est écrit « Shal na'alecha meraglecha, enlève tes chaussures de tes pieds, qui a adama, la terre, shatomed alea kodeshi, la terre sur laquelle tu es, est sainte. » Mais de quoi il s'agit? Nous sommes près du mont Sinaï, dans la péninsule sinaïque, n'a rien à voir avec Eretz Israël, les pays promis à Abraham, Isaac et Jacob, à ses descendants et donc au peuple juif, n'a rien à voir. Et pour nous, les Juifs, c'est très important. Puisque, vous savez, dans le judaïsme, notre foi, elle engendre deux choses ensemble. Les spirituels et les physiques. Les spirituels n'est pas, chez nous, séparé du peuple. C'est un sens unique et unifié. Si on n'a pas compris ça, on n'a rien compris au peuple juif. Jusqu'à aujourd'hui. Mais les malentendus existent, et puis l'ignorance, etc. La présence de Dieu dont parle le père d'Ivry, bien sûr, sanctifie la terre. Je donnerai un autre exemple de Josué, où l'ange de Dieu, l'ange de la guerre, et je le citerai, avant la conquête de Canaan, c'est-à-dire la terre d'Israël.
Avant la conquête de Canaan.
Canaan,
ceux qui
oui.
Sont habitués.
Donc, qui devient la terre d'Israël, qui sera distribuée aux 12 tribus. L'ange de Dieu, je vais le citer, utilise les mêmes termes que Dieu lorsqu'il s'adresse à Moïse. Le même. Et il n'est pas en Israël. Il est avant la conquête. Il est ce qui se trouve aujourd'hui Jordanie, c'est-à-dire, vous savez, il y avait trois royaumes là-bas, Ammon, Moab et un autre royaume, et Midian. Là, c'est autre chose. C'est-à-dire, il y a une séparation chez nous entre les termes terre sainte, la présence divine, donc où est Dieu, c'est saint, donc... on est devant Dieu, c'est unique. Il y avait Moïse, il y avait Josué, il y avait très peu de gens. Et la terre d'Israël, que nous n'appelons pas, même si en Zacharie dit Admat Kodesh, mais il parle d'Admat Kodesh, la terre sainte, Israël, la Judée et Jérusalem. Il ne parle pas de Sinaï. Donc, chez nous, on appelle ça Eretz HaKodesh, les pays saints. C'est pas du tout la même chose. Dans le judaïsme, les notions sont complètement différentes. Je sais que les chrétiens ignorent ça complètement et je ne leur en veux pas, c'est normal. Qui va leur dire ça? Donc, si vous voulez, ce sont des notions complètement différentes. Dieu peut être sur la lune, où il est, c'est saint. Qu'est-ce que ça a à voir avec Israël? Rien. Mais il assigne. Et là, je vais citer Genèse. Avant l'Exode, il y a la Genèse. Et donc, en Genèse 12, verset 7 ou 6, Abraham s'avança dans les pays jusqu'au territoire de Shechem. Shechem, c'est Naplouse, hein, jusqu'à la plaine des Morées. Les Cananéens, donc en Canaan, habitaient de l'or ces pays. 7. L'Éternel apparut à Abraham et dit, Dieu qui parle, c'est à ta postérité que je destine ces pays. Écoutez ça. Il bâtit en ces lieux un autel au Dieu qui lui était apparu. Voilà. Donc, la terre de Canaan est promise à Abraham. Je citerai, bien sûr, parce qu'il fait la promesse, Dieu fait la promesse à Abraham, à plusieurs reprises. Il y a une convention entre eux, qu'on appelle Brit Ben Abetarim, la convention entre les déchirures, parce qu'il a fait tout un acte spécial, où il promet la terre d'Israël aussi, Canaan à l'époque. Mais il promet à Isaac, son fils, et à Jacob. À chaque patriarche, il promet la terre d'Israël. C'est très important. Et c'est de ça que nous, les Juifs, parlons quand on dit Eretz HaKodesh, les pays saints. C'est les pays d'Israël. Ce n'est pas autre chose. Et je citerai Genèse 13, 15. Tous les pays que tu aperçois, je les donne à toi et à ta postérité. Je rendrai ta race semblable à la poussière de la terre, tellement que si l'on peut nombrer la poussière de la terre, ta race aussi pourra être nombreuse. Lève-toi, parcours cette contrée en long et en large, et c'est à toi que je la destine. Donc, ça, pour nous, c'est le sujet. Le fait que Dieu se trouve à un endroit, au Sinaï ou ailleurs, et que c'est saint, d'accord. Mais pour nous, les Juifs, ce n'est pas le sujet du tout.
Frère Édouard, après ce développement d'Ephraïm Tettelbaum sur cette notion de terre sainte pour les Juifs, de pays saint même, derrière, il y a aussi la promesse, la terre
voilà,
promise.
Voilà, nous faisons le distinguo entre terre sainte et terre de la promesse, et Eretz Israël, si vous voulez, dans les textes de l'Ancien Testament. Et cette promesse, pour nous, est bien sûr, selon cette expression, un avenir. Et la tradition chrétienne, si vous voulez, est restée dans cette idée que la terre de la promesse n'était pas définitive, elle était surtout surnaturelle, elle était dans les cieux. Et nos textes, si vous voulez, ont plutôt amoindri ce rapport que Ephraïm vient d'exprimer entre Adamat à Kodesh et Eretz
à Kodesh.
À Kodesh. Eh bien, nous faisons davantage le distinguo et nous retenons qu'avec Jésus dans Matthieu 24, 35, que le ciel et la terre passeront alors que mes paroles ne passeront pas. C'est-à-dire le ciel et la terre, c'est tout cet univers que nous voyons et qui n'est pas promis à l'éternité. Et la deuxième épître de Pierre, en chapitre 3, verset 10, dit même que tout sera consumé dans le feu. Donc, ce que nous attendons, ce n'est pas une réalisation de cette promesse temporelle seulement, c'est une réalisation d'une terre nouvelle, comme Apocalypse 21, 1 le dit, ou 2 Pierre 3, 13 le dit, cette terre nouvelle, c'est le temps de la résurrection, c'est le temps du ciel, c'est le temps de la Jérusalem d'en haut. Et tout l'épître aux Hébreux est une longue méditation donc sur ce mouvement vers le ciel définitif. Et donc, nous avons un moins grand attachement que le peuple juif sur Eretz Israël, mais nous ne le nions pas, c'est-à-dire nous reconnaissons la valeur que ont très fidèlement les Juifs par rapport à ce lien qui a été exprimé par Éphraïm. Mais nous disons qu'il y a en nous un dépassement à promulguer, un dépassement à réaliser pour arriver à une vraie terre définitivement riche de paix, riche du shalom plénier de la présence de Dieu, où Dieu sera tout en tous. Donc évidemment, on voit bien que ce n'est pas encore réalisé ici-bas, et il faut attendre ces cieux nouveaux, cette terre nouvelle que promet les textes du Nouveau Testament. Vous comprenez donc que la distinction entre une position juive et une position chrétienne. Je crois que très honnêtement, nous avons su l'un et l'autre exprimer la différence tout en ayant un fondement commun et une voix commune, parce que ces textes, pour nous, nous parlent encore.
Alors, la conséquence n'est même pas la même, quoi. Oui, même si on part d'un même postulat de départ.
Oui. Mais je comprends la foi chrétienne. C'est-à-dire que les chrétiens qui ne sont pas juifs n'ont aucun lien avec la terre. Aucun. Qui leur a fait la promesse de cette terre? Personne. Donc, par exemple, les Français chrétiens, leur pays, c'est la France, pas Israël. Les Allemands, c'est l'Allemagne. Les Autrichiens, c'est l'Autriche. Les Hollandais, c'est la Hollande. Les Italiens, c'est l'Italie. Ils sont chrétiens. Les chrétiens ont un lien avec la terre d'Israël de par les foi dans la Bible. Et que nous avons le même Dieu. C'est le seul lien qu'ils ont. Il est extrêmement puissant. Je le reconnais. Je ne le reconnais même pas. C'est une évidence. Donc, je n'ai pas à reconnaître une évidence. Et heureusement que au premier concile chrétien en 325, à Nicée, Constantin Ier le Grand et sa mère Hélène ont eu la sagesse. Dans la tourmente chrétienne à l'époque, il y avait une tourmente. Et ce n'est pas le père d'Ivry qui va me contredire. Il connaît ça mieux que moi, bien mieux. Et Chomrim, je disais en hébreu, comment on dit? Je disais en hébreu, comment on dit? Échappé belle. On a échappé belle. Parce que si cette décision de se baser sur la Bible juive n'était pas prise, Jésus serait une idole parmi d'autres idoles et disparaîtrait. Le christianisme ne tiendrait pas. Or, être fidèle au Dieu d'Israël, parce que quand Jésus était sur la croix, il n'a pas parlé en chinois, il n'a même pas parlé en français, c'est étonnant, il a parlé en hébreu et en araméen. Sa langue, Eli, Eli, Lama Azaftani, c'est en hébreu, et Lama Shavaktani, c'est en araméen. Pourquoi tu m'as abandonné? Il n'a pas parlé en grec. Donc, si vous voulez, tout ça n'est pas un hasard. Jésus n'a pas prêché à Beijing, il n'a pas prêché à Lutèce, il n'a pas prêché à La Mecque, il a prêché à Jérusalem, à Tibériade, en Galilée, en Judée, dans les pays d'Israël. C'est là où il a prêché. Il ne faut pas se tromper. Donc, notre différence, elle est fondamentale, mais, comme on dit, on a quand même une racine. Et la racine, c'est Dieu. Et il est commun à nous deux, mais pas la terre. La terre, c'est la terre d'Israël. Elle n'est pas la terre des chrétiens. Elle est leur terre sur le plan de la foi, mais pas charnellement. Or, je vous ai dit, chez nous, c'est les spirituels et les charnels font un. Et nous sommes le seul peuple qui a ces liens-là.
Frère Edouard, quand on parle de terre sainte aujourd'hui pour un chrétien, on parle de quoi exactement?
Alors, la terre sainte pour nous, c'est justement ce lien de la présence de Dieu. Et comme notre foi nous dit que Jésus est Dieu, et Jésus a parcouru la terre d'Israël, et à nos yeux, cette présence qu'il a promise à ses apôtres, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps », rend ces lieux, je dirais, comme un cinquième évangile, puisque Jésus l'a parcouru. Je reprends une expression de saint Jérôme. Et donc, ces lieux que Jésus a parcourus prennent un relief spécifique pour la foi chrétienne. Alors, certains vont jusqu'à inclure son passage en Égypte quand il était tout petit bébé, son passage au Liban. Vous vous souvenez qu'à un moment, il est monté tout au nord et il a donc guéri une syro-phénicienne à cet endroit avant de redescendre sur le lac de Galilée. Même, il est passé du côté de l'au-delà du lac, où c'était une terre païenne. Donc, la Terre Sainte a une expansion, je dirais, grande par rapport.
Parce que c'est partout où le Christ
est passé.
C'est partout
où le Christ est passé, exactement. Et à partir du moment où il y a la présence de Jésus dans l'Eucharistie, eh bien, inévitablement, pour nous, il y a quelque chose de saint aussi, hein, de sa présence, et il y a comme une extension à partir de Jérusalem vers les nations. Et c'est d'ailleurs ce que dit le texte de Jésus au moment où il envoie dans les Actes des Apôtres, au chapitre 1, verset 8. Qu'est-ce que dit Jésus aux apôtres ? Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux confins de la terre. Donc il y a bien cet enracinement de base, explicitement dit. Jérusalem, parce que c'est la terre des prophètes, c'est la terre où Jésus est mort et ressuscité. C'est donc ce lieu d'enracinement qui demeure, malgré les vicissitudes, je dirais, de l'histoire. Et on voit bien, dans la Judée, dans la Samarie, on aurait pu entendre dans la Samarie la Galilée, y compris, mais je pense que c'était inclus déjà dans le mot Judée, jusqu'aux confins de la terre. Hein. Donc il y a vraiment un universalisme, si vous voulez, qui est donné dans cette notion. Alors il faut bien comprendre que la position du magistère de l'Église, il y a trois positions importantes.
Si vous voulez bien, oui. On va en parler après la pause, puisqu'on arrive à peu près bien. À la mi-heure d'émission, parce que là, vous allez avoir, je pense, là aussi, de longs développements à faire. Oui, oui. Il y aura plusieurs points de vue à aborder. Hein, sur ce sujet. Donc, on va faire une petite pause après ce premier temps d'échange autour de l'expression Terre Sainte. Je vous propose d'écouter une œuvre de circonstance, rarement jouée et pourtant très belle, Le Buisson Ardent, composé par Charles Quéclin. C'est un extrait de la seconde partie.
Bravo. Thank you.
présence. Vivante Église, Éric Dupri.
Retour à l'antenne pour cette seconde partie de Vivante Église avec mes deux invités, Ephraim Tettelbaum, membre de la communauté juive de Toulouse, ex-délégué régional du Fonds social juif unifié, et Édouard Divry, frère dominicain, docteur en théologie et professeur d'hébreu, ex-délégué diocésain pour les relations avec le judaïsme à Toulouse et à Montpellier. Nous allons donc reprendre notre échange consacré aujourd'hui à l'expression « Terre Sainte ». On a abordé en première partie d'émission donc cette expression que l'on découvre dans le livre de l'Exode au chapitre 3. Et frère Édouard, vous vouliez poursuivre en donnant différents points de vue qui ont cours à l'intérieur du christianisme, pas seulement l'Église, mais en tout cas il y a déjà celui du magistère de l'Église.
Voilà, alors commençons si vous le voulez bien par le magistère qui s'est exprimé évidemment sur la création de l'État d'Israël 1948 et qui même a fini par le reconnaître en établissant des relations diplomatiques à partir de 1993. Et je signale donc que le 24 juin 1985, il y a une commission qui appartient à ce qu'on appelait le secrétariat pour l'unité des chrétiens à l'époque, commission pour les relations religieuses avec le judaïsme, note pour une correcte présentation des juifs et du judaïsme dans la prédication et la catéchèse de l'Église catholique. Voilà ce que disait ce texte. L'histoire d'Israël ne finit pas en 70, qui est important, et on rappelait des orientations aussi qui étaient données quelque temps avant. Elle se poursuivra en particulier dans de nombreuses diasporas qui permettra à Israël de porter dans le monde entier le témoignage souvent héroïque de sa fidélité au Dieu unique et de l'exalter face à tous les vivants, citant Tobie 13,4, tout en conservant le souvenir de la terre des ancêtres au cœur de ses espérances. Le mot terre des ancêtres est une expression du Seder Pascal. Les chrétiens sont invités à comprendre cet attachement religieux qui plonge ses racines dans la tradition biblique, sans pour autant faire leur une interprétation religieuse particulière de cette relation. Et le texte poursuit, pour ce qui regarde l'existence de l'État d'Israël et ses options politiques, celles-ci doivent être envisagées dans une optique qui n'est pas en elle-même religieuse, mais se réfère au principe commun de droit international. La permanence d'Israël est un fait historique et un signe à interpréter dans le plan de Dieu. Il faut en tout cas se débarrasser, et c'est là le point essentiel, je dirais, de cette instruction, de la conception traditionnelle du peuple puni, conservée comme argument vivant pour une certaine apologie chrétienne. Il reste le peuple choisi, l'olivier franc sur lequel ont été greffés les rameaux de l'olivier sauvage que sont les gentils, rappel d'une déclaration de Jean-Paul II le 6 mars donc 1982. On rappellera combien le bilan des rapports entre juifs et chrétiens durant deux millénaires a été négatif. On relèvera combien cette permanence d'Israël s'accompagne d'une créativité spirituelle continue dans la période rabbinique, au Moyen-Âge et dans la période moderne, à partir d'un patrimoine qui nous fut longtemps commun, si bien que la foi et la vie religieuse du peuple juif, telles qu'elles sont professées et vécues encore maintenant, peuvent aider à mieux comprendre certains aspects de la vie de l'Église. Toujours texte cité de Jean-Paul II du 6 mars 82. La catéchèse devrait d'autre part aider à comprendre la signification pour les Juifs de leur extermination pendant les années 39-45 et de ses conséquences, la fameuse Shoah tristement connue de nos auditeurs. Il y a donc une position, vous voyez, qui veut éliminer une autre pensée qui a encore cours dans l'Église, on pourra le prendre dans cette deuxième interprétation, et je citerai Tillich, le
théologien allemand,
pasteur luthérien. Donc déjà un premier point de vue.
Alors, une réaction, Ephraim Tettelbaum, à ce que vient de rappeler et préciser le frère Édouard sur la position du magistère de l'Église concernant l'expression « Terre Sainte ».
Alors je vais être très court concernant le magistère de l'Église, puisque ce n'est pas mon sujet à moi. Moi, je suis juif. Donc, le peuple a la nuque raide. Voilà. Nous sommes têtus. Donc, je suis têtu, je continue, mais je comprends. C'est un problème de l'Église. Ce n'est pas le problème du peuple juif. Comment on nous voit, c'est une chose, mais ce n'est pas nous. Moi, je veux parler de nous. En plus, j'admire Jean-Paul II. J'aimais beaucoup aussi Benoît XVI. Et je m'arrête là. En tant que juif, je m'arrête là, vraiment. Chez nous, on dit « Vamei vinyoivin ». Et celui qui veut comprendre, comprendra là pourquoi. Donc, je m'arrête là, mais je reviens. Donc, Genèse 17, paragraphe 8. « Et je donnerai à toi et à ta postérité, Dieu parle à Abraham, la terre de tes pérégrinations, toute la terre de Canaan, toute la terre de Canaan, toute, comme possession indéfinie, et je serai pour eux un Dieu tutélaire. » Ça, c'est extrêmement important. Les choses sont claires. Je continue. Genèse 35, 12. Et les pays que j'ai accordés à Abraham et à Isaac, là il parle à Jacob, j'étais la corde, et à ta postérité après, toi je donnerai ces pays. Ce ne sont pas des paroles en l'air, c'est Dieu qui parle. Hein? Alors nous sommes ici dans une radio des fois, radio chrétienne, donc ce sont des paroles qui comptent. Mais, comment dire, il ne suffit pas. Il y a aussi Exode 19, 5 et 6. Désormais, si vous êtes docile à ma voix, parle Dieu, si vous gardez mon alliance, vous serez mon trésor entre tous les peuples, car toute la terre est à moi. C'est extrêmement important, puisque là, on glisse vers le peuple choisi et choyé par Dieu. Voilà encore une raison pour être en colère contre le peuple juif et être jaloux surtout. Je suis désolé de décevoir beaucoup de gens, mais voilà comment les choses se passent. Et on peut aller vers Deutéronome 14, 2. « Car tu es un peuple consacré à l'Éternel ton Dieu, et c'est toi qui l'as choisi, l'Éternel, pour lui être un peuple spécial entre tous les peuples répandus sur la terre. » Amsgoula, c'est un peuple consacré. Et cette phrase-là, c'est la base de l'antisémitisme, de la haine contre le peuple juif. Pourquoi on vous a choisi, vous, et pas les autres? Or, juste un mot, les choix étaient faits déjà à Abraham, Isaac et Jacob. C'est par eux que la prophétie était livrée. Et il a choisi ce peuple-là pour lui accorder la loi. Cet exemple, c'est une charge, ce n'est pas un privilège. Les gens pensent que c'est un privilège. Nous avons 613 commandements. Hein, je ne sais pas quel peuple attend des commandements à respecter. Et donc, c'est une charge. Nous avons reçu ce qu'on dit improprement 10 commandements, mais c'est 10 paroles. Aseret hadibrot. Les d'Aber, c'est parler. Ce n'est pas des commandements, c'est des paroles divines. Sur le mont Sinaï, nous sommes sortis d'Égypte à Pâques. Nous serons 50 jours après la sortie d'Égypte devant le mont Sinaï, nous recevrons la Torah. La fête s'appelle Shavuot, les semaines, 7 fois 7 et les 50e jour, les dons de la Torah. Et on continuera pendant 40 ans comme ça, jusqu'à Josué et jusqu'à la conquête de Canaan et l'installation du peuple hébreu sur sa terre promise. Or, pour nous, les Juifs, je termine là-dessus, les Eretz HaKodesh, les pays saints, et Israël, pas un autre endroit.
Pas un autre.
Alors, il est saint contre Dieu quelque part. Je vous ai dit, il peut être sur la Lune ou sur une autre planète. Bien sûr, où est la présence divine, c'est saint. Mais ce n'est pas de ça dont nous parlons, nous les Juifs.
Alors, très important, je pense, ce point qu'a soulevé Ephraim Teitelbaum, parce que là, il est question, le mot n'a pas été employé, de l'élection du peuple juif. Élection qui, comme il l'a rappelé, n'est pas seulement un privilège, c'est aussi une charge, il faut en être digne. Et la question qu'il y a derrière, il me semble, c'est est-ce qu'il y a possibilité d'une péremption pour les promesses divines? Je crois que non.
Alors, bien sûr, les promesses divines restent toujours d'actualité. C'est ce que rappelle la Commission pontificale biblique, le peuple juif, et ces saintes écritures dans la Bible chrétienne du 24 mai 2001, qui est le texte le plus considérable d'un point de vue chrétien, qu'il faut aller lire. Malheureusement, il est souvent mis un peu de côté parce qu'on parle dedans de de continuité, mais aussi de rupture, et certains n'aiment pas le mot rupture, tel que les orientations initiales du cardinal Wilbrands le disaient. Il y a dans les textes de Vatican II, par exemple, du Dei Verbum, rappel qu'il y a des éléments dépassés, obsolètes, dans l'Ancien Testament pour nous chrétiens. Pour nous chrétiens, je rappelle. Et ce texte de la Commission pontificale biblique rappelle que notre enracinement, puisque nous nous considérons nous comme greffés, que notre élection est une greffe sur l'olivier franc et Israël. C'est pour cela qu'il y a eu des rois en France qui s'estimaient tout autant oints que le roi David. Nous connaissons cette interprétation qui n'a plus lieu actuellement, mais qui a marqué, si vous voulez, cette idée de la greffe. La greffe, c'est que nous sommes greffés sur Eretz Israël. Et quel est le lieu biblique par excellence où nous sommes greffés? Eh bien, c'est, dit ce texte de la Commission biblique, c'est Genèse chapitre 15, avant l'ordre de la circoncision qui est donné en Genèse chapitre 17. Il y a comme une prévision qui est donnée par Dieu de cette connexion qui va se faire. Et en Genèse chapitre 15, ben, on nous dit que quand Abraham s'est endormi, le soleil fut couché et qu'une profonde obscurité fut venue, voici qu'un fourfumant et un brandon de feu partageaient les animaux. Et en ce jour-là, le Seigneur fit alliance avec Abraham en disant « Je donne à ta postérité ce pays ». Et c'est ce pays immense qui part de l'Égypte et qui va jusqu'au Liban. Donc c'est vraiment quelque chose de très réel et nous ne pouvons pas le nier. Il y a un enracinement sur la terre d'Israël de quelque chose qui est sacré, hein, de quelque chose qui est saint. Cependant, il y a une tendance dans la tradition chrétienne qui a été un petit peu de vouloir, comme le déconseillait d'enseigner le texte que je vous ai dit du magistère, une tradition du juif errant, c'est-à-dire de considérer que les juifs sont comme punis par le fait que la mort de Jésus a eu lieu à Jérusalem et du coup qu'ils sont dans la diaspora.
Apatrides.
Voilà, et qu'ils sont comme des juifs apatrides. Le dernier grand théologien qui a un peu exprimé ces choses-là, c'est le fameux théologien protestant Tillich, qui a eu des propos, donc ni figue ni raisin, je dirais, qui montre bien dans un premier temps que les attaques qui a connu son pays en Allemagne par le nazisme était contre les juifs et qui impliquait en même temps une attaque contre le christianisme. Donc il prend bien conscience que quand on s'attaque au tronc, on s'attaque à la greffe, évidemment. Et d'une manière très juste, que les juifs et les chrétiens devaient s'unir désormais pour lutter contre les maux du temps et contre l'antisémitisme particulièrement, contre le racisme, etc. Mais il gardait dans son atavisme, je dirais, théologique, l'idée que aimer une terre, un espace, c'était un lieu par excellence, disait-il, d'une certaine forme, si vous voulez, d'idolâtrie. Parce que pour lui, l'espace est en puissance une occasion de polythéisme, selon Tillich. Et donc pour lui, un attachement trop résolu à la terre était une marque d'éloignement de Dieu. L'espace n'étant rien, pour lui, c'était le temps qui comptait. Et en disant cela, bien sûr, il laisse sous-entendre que faire des juifs le peuple du temps seulement, c'est faire des juifs errants, sans espace, auxquels l'inconscient allemand voudrait peut-être le ramener. Et nous, chrétiens catholiques, si vous voulez, nous n'avons pas du tout cette position, hein. Nous condamnons cette position en disant non, il y a un attachement tout à fait religieux, réel et saint
et légitime
entre les juifs et sa terre. Et Jean-Paul II, d'ailleurs, l'avait bien dit aux membres des associations des victimes du camp de concentration d'Auschwitz-Birkenau le 10 juin 1996. Il le disait, la fidélité à l'identité nationale admet aussi une valeur religieuse. Et donc, si les juifs ont un attachement à Eretz Israël, c'est bien une identité nationale qui existe et qui implique aussi une dimension religieuse. Vous voyez, Jean-Paul II avait ouvert la porte entre ce rapport entre Eretz Israël et une dimension religieuse. Alors que ce que je vous avais entendu, le document officiel du Saint-Siège, était de dire attention, Nous reconnaissons Eretz Israël comme les autres États, mais nous ne voulons pas que cela implique une dimension religieuse. Donc, vous voyez, Jean-Paul II a ouvert une dimension religieuse. Je pense que c'est pour réagir à ces tendances sous-jacentes qui restent encore chez certains, qui viennent de cette espèce de mythe du juif errant.
Ephraim Teitelbaum, voilà. Je laisse le mot de la fin parce qu'on arrive
oui,
au terme
mais
de l'émission.
Oui, mais j'ai deux choses quand même à dire importantes. Premièrement, j'apprécie ce que dit le père d'Ivry, bien sûr, et Jean-Paul II. Donc, je ne vais pas, puisqu'on n'a pas le temps, mais je vais revenir sur le chapitre 15 de Genèse, puisque là, c'est très important. C'est le fameux Brit Ben Abetarim. Et voilà ce qu'il dit. « Certes, disait Abraham, tu ne m'as pas donné de postérité. » Il a déjà Ishmaël, hein? Donc, écoutez ça, hein? Et l'enfant de ma maison sera mon héritier. Donc ça veut dire qu'Ishmaël n'est pas l'enfant de sa maison. Mais voici que la parole de l'Éternel vint à lui, disant, celui-ci n'héritera pas de toi. C'est dur, hein? C'est comme ça. C'est bien un homme issu de tes entrailles qui sera ton héritier, et ce sera Isaac. Il le fit sortir en plein air et dit, regarde le ciel et compte les étoiles. Peux-tu en supporter le nombre? Ainsi, reprit-il, sera ta descendance. Voilà, donc ça c'est une chose. Josué, et après la dernière phrase que j'aimerais dire quand même, Josué 5, 13, 14. Un jour, Josué se trouvait devant Jéricho. Les Valaisiens et vit un homme debout en face de lui, l'épée nue à la main. Josué alla à lui et lui dit, « Es-tu des nôtres ou un de nos ennemis ?»« Nullement, répondit-il, je suis le chef de la milice du Seigneur. » Elohei Tzvaot, le Dieu de la guerre, répondit-il, je suis le chef de la milice du Seigneur qui suis venu présentement. Josué tomba à la face contre terre en se prosternant et lui dit, qu'ordonne mon Seigneur à son serviteur? Le chef de la milice divine dit à Josué, ôte ta chaussure de tes pieds, car l'endroit sur lequel tu es est saint. Et Jésus a obéi. C'est exactement le même en hébreu parole que Dieu a dit à Moïse. Et maintenant, j'aimerais juste dire un mot. J'étais d'accord avec tout ce que disait le père d'Ivry, bien entendu, et j'apprécie. C'est une partie de l'Église. Ce n'est pas toute l'Église, malheureusement. Mais c'est là qu'on compte. Parce que c'est important, les liens entre les chrétiens et les juifs. Pour l'humanité. Maintenant, vu la guerre du 7 octobre 23, tous les paradigmes ont changé. Et voilà ma prophétie. La terre d'Israël qui était promise à nos ancêtres, Abraham, Yitzhak, Yaakov, est la suivante. Les Golan et les Bashan dans le nord, qui sont maintenant sous la domination de l'armée d'Israël. Tous les pays de Canaan, c'est-à-dire Judée, Samarie, tout. La bande de Gaza et sans doute une partie du Sinaï reviendront sous la souveraineté israélienne. Et je termine par la prière, trois prières par jour juives, nous allons bâtir le troisième temple sur le mont Moria à Jérusalem. Je sais que c'est une prophétie lourde, mais c'est une prophétie pour le peuple juif.
Nous allons conclure là-dessus ce numéro, le troisième de notre série consacrée aux traditions juives et chrétiennes, à leur regard croisé sur les textes bibliques. Merci beaucoup à vous deux, Ephraim Teitelbaum et Édouard Ivry. D'autres épisodes suivront en 2025 sur d'autres thèmes. Cette émission était animée par Éric Dupri, à la technique Jonathan Botello. Excellente journée à tous et à la semaine prochaine.